Calade.
Ma radio.
Allez, il est l'heure d'une rubrique Nuances du Monde et pour ça, on est en compagnie de Jeff. Salut.
Salut Mathieu.
De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
On va parler de la bataille des Glières. Parce que cette semaine, ça, c'est celle du 26 mars 1944. Et c'est la date à laquelle s'achève la bataille d'Aiglières, qui s'est déroulée donc entre janvier et mars 1944 en Haute-Savoie, et qui s'inscrit dans le contexte plus large de la résistance française contre l'occupation nazie et la collaboration du régime de Vichy. Alors cette bataille a non seulement marqué une phase importante de la lutte armée en France, mais elle est également devenue un symbole de courage et de sacrifice.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte historique et la naissance de la résistance en Haute-Savoie ?
Oui, bien sûr. Alors au début de la guerre, le département de la Haute-Savoie accueille avec plutôt bienveillance la personne du maréchal Pétain, ainsi que son programme de révolution nationale. La population rurale, majoritairement conservatrice et catholique en termes de valeurs, adhère naturellement donc à la fameuse devise du régime « travail, famille, patrie », ainsi qu'à ses formules comme « la terre ne ment pas », et à l'idée d'une rénovation par la morale, d'une rédemption par le travail et l'esprit de sacrifice, opposé à l'esprit de jouissance assimilé au Front populaire et au communisme. D'ailleurs, en comparaison avec le reste du pays, le département de Haute-Savoie peut être considéré comme un foyer majeur non seulement du maréchalisme, c'est-à-dire de l'attachement à la personne et à la figure de Pétain, mais aussi du pétainisme, c'est-à-dire de l'adhésion à son programme de révolution nationale. En témoigne la puissance du SOL, le service d'ordre légionnaire, qui rassemble plus de 20 000 adhérents en 1941 et qui se veut être les yeux et les oreilles du maréchal. Et également l'accueil vibrant que réserve la ville d'Annecy et les Hauts-Savoyards à Pétain en visite dans la ville le 23 septembre 1941. Alors à cette date, l'aspect répressif du régime n'est pas encore très marqué en Haute-Savoie. Et le statut discriminatoire des Juifs, qui sont peu nombreux dans le département, puisqu'on en dénombre moins de 500, s'applique dans l'indifférence vraiment générale.
Et donc la population majoritairement rurale et conservatrice trouvait dans les valeurs du régime une continuité avec ses traditions.
Non, effectivement. Cependant, quand même, au fil du temps, le rejet de la collaboration s'est accru, notamment avec la mise en place du service du travail obligatoire en 1943. Cette mesure obligeait en effet les jeunes Français à partir travailler en Allemagne, poussant de nombreux réfractaires à se cacher, à rejoindre les maquis. La résistance en Haute-Savoie est d'abord restée limitée, portée par quelques pionniers qui diffusaient des tracts clandestins et qui reliaient des informations. L'occupation italienne en 1942 a renforcé l'hostilité au régime de Vichy, qui est jugé incapable de protéger le territoire. En 1943, la montée en puissance de la milice et l'arrivée des Allemands rendent la situation plus tendue. Face à la répression croissante, la population commence alors à soutenir activement les résistants en leur fournissant nourriture et abri. La géographie montagneuse du département offre vraiment des cachettes idéales pour ces petits groupes clandestins. Les hameaux dispersés, la proximité de la Suisse facilitent la dissimulation et les déplacements. Cependant, les résistants manquent cruellement d'armes et de matériel. Londres décide alors d'organiser des parachutages massifs, notamment sur le plateau des Glières, qui va devenir un centre névralgique de la résistance armée.
Alors justement, comment s'organiser ce maquis de Glières, des Glières ?
Des Glières, alors ça s'organise sous la direction du lieutenant Tom Morel, dès janvier 1944. Théodose Morel, alias Tom, est un ancien officier de l'armée française. Il réunit initialement 120 hommes afin de réceptionner des parachutages d'armes. Peu à peu, l'effectif grossit avec l'afflux de volontaires atteignant plus de 400 combattants. Ces hommes sont issus de milieux divers, ils sont animés par une volonté commune de lutter contre l'occupant. Parmi eux se trouvent des combattants de l'armée secrète de la résistance, des officiers et des sous-officiers des chasseurs alpins, des francs-tireurs et partisans communistes, et puis des républicains espagnols et des réfractaires au STO, au service du travail obligatoire, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors les conditions de vie sur le plateau, qui se situe entre 1400 et 1800 mètres d'altitude, sont extrêmement difficiles, on est en janvier. Le froid, le manque de nourriture, l'équipement rudimentaire compliquent la survie. Malgré cela, les maquisards poursuivent leur entraînement et s'organisent en unités structurées. Tom Morel met en place un commandement efficace et impose une discipline vraiment rigoureuse. Le plateau continue d'être un point stratégique pour les parachutages d'armes envoyés par les alliés. Face à la montée en puissance du maquis, le régime de Vichy réagit rapidement. Philippe Henriot, secrétaire d'État à l'information et à la propagande, présente le plateau comme un nid terroriste. Et la milice est envoyée pour éliminer les résistants. Darnan, le chef de la milice, mobilise 800 francs-gardes, c'est-à-dire le bras armé de la milice, pour traquer les maquisards. Cependant, ils sont mal préparés, sous-équipés, et donc ces forces, elles peinent à vaincre les résistants qui connaissent bien le terrain et bénéficient du soutien local. Malgré tout, le 9 mars 1944, Tom Morel est tué à Entremont lors d'une opération visant à désarmer un groupe de gendarmes du groupe mobile de réserve. Et son successeur, le capitaine Maurice Angeau, il va prendre la relève pour adopter une stratégie qui sera plus défensive et va intensifier les préparatifs en vue d'une attaque qui s'annonce imminente.
Donc on arrive vers la fin du mois de mars, l'assaut final des Allemands et de la milice est imminent. Comment cela se passe-t-il ?
On l'a vu, la milice échoue à se défaire de ce maquis. Les Allemands décident alors d'intervenir directement. C'est ainsi que le 26 mars 1944, une offensive massive est lancée contre le plateau. Plus de 2500 soldats allemands, appuyés par l'aviation et l'artillerie, attaquent les positions des maquisards. L'assaut est vraiment méthodique. Bombardement aérien, tir d'artillerie, attaque au sol, se coordonnent pour mettre à mal la résistance du maquis. Comprenant que la lutte directe vraiment est impossible face à une telle puissance de feu, le capitaine Angeau ordonne la dispersion des maquisards dans la nuit du 26 au 27 mars. Les hommes tentent de fuir à travers les montagnes enneigées, mais beaucoup quand même sont pris en embuscade. Sur les 465 résistants présents, 149 sont tués, dont certains exécutés sommairement après leur capture. Ceux qui survivent doivent affronter une traque impitoyable de la milice et des Allemands. Les représailles sont alors terribles. Plusieurs villages soupçonnés d'avoir aidé les résistants sont brûlés, leurs habitants arrêtés et exécutés. La milice et la Gestapo mènent des rafles à Annecy et dans d'autres localités.
Donc, quelles sont les conséquences et la mémoire de la bataille des Glières ?
Alors, bien que la bataille des Glières se soit soldée par une défaite militaire, elle devient rapidement un symbole de la résistance. La presse clandestine et la BBC relaient l'événement comme une démonstration du courage des résistants français. Le plateau des Glières est perçu comme un lieu où la résistance a opposé une lutte héroïque aux forces d'occupation. L'échec de la milice et l'intervention des Allemands révèlent également la faiblesse du régime de Vichy, dont l'autorité est de plus en plus contestée. La brutalité de la répression choque l'opinion publique et renforce le soutien à la résistance. Dans les mois qui suivent, la Haute-Savoie devient un bastion de la lutte contre l'occupation et en août 1944, le département est libéré par les seules forces unies de la résistance. Donc il se libère tout seul finalement.
Ouais.
Alors aujourd'hui, le plateau des Glières, ça reste un haut lieu de la mémoire résistante. Un mémorial y a été inauguré par André Malraux en 1973 et chaque année, des cérémonies commémoratives y sont organisées pour honorer la mémoire des combattants. La devise « Vivre libre ou mourir », adoptée par les maquisards, résonne encore comme un symbole du combat pour la liberté. Le site est d'ailleurs devenu un lieu de pèlerinage pour les historiens, les anciens combattants et les citoyens souhaitant perpétuer le souvenir de cette lutte héroïque. On peut également se rendre à la nécropole nationale des Glières, au lieu dit de Morette, sur la route des Aravis, près de Thônes, où reposent 105 résistants morts au combat, dont Tom Morel. En conclusion, la bataille des Glières incarne à la fois le courage, le sacrifice et l'engagement d'hommes et de femmes déterminés à défendre leur pays face à l'oppresseur. Bien que militairement défaits, les résistants ont marqué l'histoire et contribué à la victoire finale contre le nazisme.
Une belle histoire, merci beaucoup de l'avoir partagée avec nous aujourd'hui, Jeff. À très bientôt.
À bientôt. Calade. 100.9.